volontaire, on travaille bien avec vous, vos équipes, avec Charlotte, avec Linda, avec le jeu collectif. Vous jouez bien, non? Vous êtes content? Des projets qui sont, vous êtes un chargeur international spécifiquement?
Non, pas du tout, c'est pas juste des sports.
Vous occupez des sports? Ah ben, c'est bien qu'on se. Je vais peut-être dire deux, trois choses qui vont vous intéresser.
Oui.
Oui, on a des possibilités de partenariat pour vous.
Bonjour à toutes et tous. On va commencer. Il y a sûrement des gens qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, bienvenue pour cet atelier sur le sport. À vos marques préparées, sport et coopération décentralisée, à la veille des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Donc, en ces temps de Coupe du Monde de rugby et de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques, on a souhaité faire un atelier sur la thématique du sport. On n'a pas forcément l'habitude à CUF de faire, de traiter cette thématique lors des rencontres. Donc, on est content aujourd'hui de parler de ce sujet-là. Surtout quand on voit la mobilisation des collectivités locales pour la préparation notamment de l'événement de l'année prochaine, et puis aussi des projets de coopération décentralisée sur le sport qui sont nombreux. Donc on y reviendra tout à l'heure avec des exemples. Donc à travers une double approche, en fait, on va avoir une double approche comme fil rouge. À la fois donc en quoi la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques contribue au rayonnement des collectivités territoriales françaises et à l'internationalisation des territoires. Et dans un deuxième temps, en quoi ça contribue, ça relance ou ça peut renforcer la coopération décentralisée. Et ce, à plusieurs niveaux de collectivités, en l'occurrence des communes et des départements. Donc on a un panel de 5 intervenants de collectivités franciliennes, mais on sait que c'est au-delà de l'Île-de-France. Hein. Les matchs de rugby, c'est aussi Toulouse, Bordeaux. Mais voilà, on a pour le coup des représentants de collectivités franciliennes. Donc Philippe Rio, maire de Grigny, partenaire de la Palestine, notamment d'un centre de réfugiés en Palestine. Michel Baudard, conseiller municipal délégué au sport de Tremblay en France. Zainaba Saïd en Zoom, j'espère que je prononce bien, conseillère départementale de Seine-Saint-Denis déléguée au sport. Et parmi les deux autres intervenants hors collectivité, Raphaël Leclerc, qui travaille beaucoup avec les collectivités puisque vous êtes responsable de la mobilisation des territoires au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et enfin, Thomas Cosset, directeur du réseau et des programmes de volontariat de France Volontaire. Alors, on va donner la parole aux différents intervenants. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange de questions-réponses. Alors, donc, on va commencer par vous, Raphaël Leclerc, pour un peu une mise en perspective et avoir aussi peut-être votre analyse ou votre regard en tant que responsable de la mobilisation des territoires. Vous pourrez peut-être nous parler du label Terre de Jeux, notamment, et quels avantages, pour commencer, ce label, et quels avantages peut en tirer une collectivité.
Bonjour à tous, merci de votre invitation. Bonjour aux autres panélistes. Vous pouvez peut-être revenir sur l'ambition de Paris 2024. Depuis la phase de candidature en 2015, il y avait cette envie que ce projet puisse dépasser les frontières de la région francilienne. Et donc, progressivement, à différents niveaux, Tony Estanguez, son président, et les équipes, on a souhaité élargir et un peu éclater le concept. Donc, vous le savez, les épreuves, elles ne se passeront pas uniquement à Paris intramuros. Il y en aura une bonne partie en Seine-Saint-Denis. Il y en aura pour le football dans cette civile de province. Il y aura le hand et le basket à Lille, à Tahiti, le surf. À Châteauroux, le tir, donc pas mal de, et Marseille, la voile et le football, tout à fait. Donc pas mal de collectivités. Puis après, on a poussé le curseur encore plus loin en se disant il faut qu'il y ait des collectivités qui, au-delà de ces 20 de collectivités qui accueillent des épreuves, puissent participer à cette grand événement, ce grand rendez-vous finalement pour le pays. Et donc on a, avec le Comité international olympique, créé ce label Terre de Jeux 2024. L'idée était de trouver un chemin de passage pas simple d'un point de vue marketing et légal, qui est de se dire le CIO, il est financé, vous le savez sans doute, à 97%, enfin les jeux sont financés à 97% par du privé, la billetterie, les droits télé, le programme marketing. Et donc il fallait permettre à des acteurs, collectivités, ambassades, fédérations, de s'associer à l'événement sans faire peser le risque que des partenaires qui financent à peu près un peu moins d'un milliard et demi, nous disent bah non, ces acteurs-là, ils ne financent rien, donc on ne va pas leur octroyer ces droits-là. Et donc on a créé ce label où, franchement, quand on regarde la typographie, les couleurs et même la dénomination, on n'a pas d'hésitation sur le fait que c'est bien un programme de Paris 2024. Et donc ce programme qui est gratuit, qui est accessible à l'ensemble des collectivités françaises, régions, départements, communautés de communes, collectivités, enfin villes, s'est déployé à partir de 2019. Aujourd'hui, il y a 4500 acteurs, dont la Seine-Saint-Denis, dont la ville de Tremblay, dont la ville de Grigny sont labellisés. Donc c'est finalement un label très facile à obtenir. Et notre enjeu était de se dire comment est-ce qu'on va, un, informer ces collectivités, deux, comment est-ce qu'on va les aider du mieux possible et avec les moyens qui sont les nôtres, de faire rayonner, donner de la... valoriser les actions que ces collectivités mènent autour du sport en France et à l'étranger. On y reviendra sans doute sur la dimension internationale. Et enfin, dernier point qui était important, c'est de se dire comment est-ce qu'on va pour la première fois créer des liens très concrets entre des programmes existants de Paris 2024 et ces collectivités et leurs habitants. Je prends 3-4 exemples. Si on prend les Jeux depuis 130 ans et qu'on est une ville, Grigny, Tremblay ou Saint-Malo, Bayonne, Gap, il y a l'impossibilité d'avoir l'accès à la billetterie. C'est possible pour la première fois entre le 5 septembre et le 25 septembre, donc c'est en ce moment, il reste une semaine, pour acheter de la billetterie en groupe pour des scolaires, pour des centres de loisirs, pour les élus, pour les acteurs économiques et associatifs de la ville. Ça n'avait jamais été fait. On a réussi à créer du lien entre le relais de la flamme et ce programme. On a accompagné les collectivités sur la mise en place, l'accès à des financements. C'est l'AFD, mais ça peut être les projets qu'on va évoquer aujourd'hui sur la coopération décentralisée. C'est le cas aussi avec l'ANS. Et donc, on a permis aussi de recruter, on en parlera peut-être après, sur des volontaires. Pour la première fois, des collectivités ont pu recruter. Donc, il y a 2024 volontaires sur les quelques 40 000 qui viennent de collectivités labellisées. Tout ça pour un investissement financier qui est nul ou très, très réduit. On pourra parler aussi des éléments de financement sur les équipements. Et donc, l'enjeu pour nous était de se dire comment, sur 5 ans, on va... parler du sport sous toutes ses facettes, sport à l'école, sport senior, sport à développement durable, sport et parité, sport et accessibilité, inclusion, pour essayer localement de faire un petit peu bouger ou d'être un accélérateur ou un catalyseur de changement là-dessus. Et donc aujourd'hui, on a des premiers éléments assez intéressants de gens qui nous disent désormais, on parle de sport en conseil municipal, il y a plus de 100 personnes qui ont été recrutées à travers le pays et qui ont dans leur titre mobilisation des territoires avec le sport, Terre de Jeux 2024. Donc ça, c'est des choses qui démontrent que le sport progresse un petit peu dans ces territoires. Il y a un grand nombre d'exemples sur lesquels on pourrait revenir sur l'éducation, le sport à l'école et les investissements croissants. Et donc l'enjeu pour nous dans cette dernière année, déjà, c'est de continuer à accueillir de nouvelles collectivités tout en se disant que ce label, il a vocation à perdurer au lendemain des Jeux puisqu'il n'est pas contraint par les règles marketing du CIO. Ça, c'est un point important. Et de se dire qu'aujourd'hui, on vise tous deux grands moments d'un point de vue territorial. Le relais de la flamme, de début mai jusqu'à fin juillet, à peu près 400 collectivités qui vont être concernées. Et puis le temps des célébrations, ça sera le grand rendez-vous à l'été 2024 avec pour la première fois des systèmes que nous on appelle des clubs 2024, donc de fan zone, dans 150 à 200 villes de France. Vous le voyez peut-être en ce moment sur le rugby, c'est comment est-ce qu'on accompagne ces villes, ces collectivités, départements et régions à mobiliser, faire vivre une expérience un peu unique des Jeux. Donc voilà, pour résumer, on est pour la première fois sur un programme gratuit, très facilement accessible. La plus petite collectivité, elle a 39 habitants, il y en a 4500, la médiane, elle en a à peu près 10 000. Donc on a une bonne représentativité, on est présent dans tous les départements, au moins avec 5 communes. Et jusqu'à plus de 150 en Vendée, Bouches-du-Rhône par exemple, en Moselle. Et aujourd'hui, on se dit que voilà, il faut continuer d'accompagner ces collectivités en se disant qu'il faut qu'à la fin des Jeux, nous, notre pari, c'est de dire il faut que dans des villes comme Tremblay, Grigny ou autres, on puisse dire dans 3-5 ans, Paris 2024 est passé par là, il y a des manifestations physiques ou en termes de comportement du fait que voilà, le projet n'est pas passé au-dessus de nous, à côté de nous. On n'a pas une baguette magique, on se dit plutôt qu'on est un gisement d'opportunités ou de solutions en essayant d'inspirer les collectivités.
Merci. Et est-ce que vous... Est-ce qu'on peut avoir le deuxième micro, si vous pouvez le faire passer ? Merci. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple donc d'une collectivité hors de celles qui sont représentées aujourd'hui, où elles se sont inscrites justement dans une démarche de long terme un peu, où le sport a pris une place plus importante et où il y a eu peut-être un lien avec aussi l'international ?
Alors, spontanément, il y a pas mal de collectivités. Il y en a une qui me vient parce que j'ai échangé avec le maire récemment. C'est une petite collectivité qui aujourd'hui a 15 000 habitants. C'est Saint-Dizier, dans l'est de la France. À Saint-Dizier, c'est une ville qui historiquement avait 25 000 habitants, qui était là où les usines Mico de glace étaient créées, qui en 20 ans, 30 ans a vu sa population divisée par deux. Et il y a un jeune maire qui a été élu à la dernière élection municipale qui nous a dit « Je veux profiter pendant 5 ans des Jeux comme d'un vrai levier d'attractivité à tous les niveaux. » Et son analyse est de se dire « Une ville qui démontre qu'elle est engagée et active sur le sujet du sport, elle transmet une image de dynamisme sous toutes ses formes. » Donc évidemment, il n'y a pas que les Jeux et que Terre de Jeux 2024 là-dedans, bien évidemment. Et donc, il a mené un certain nombre d'actions sur mettre plus de sport à l'école, mener des projets de développement sur les équipements sportifs en lien avec l'ANS. Et donc, voilà, cette collectivité-là, elle est allée chercher sur ce programme un levier ou un début de réponse pour illustrer sa stratégie, pour lui donner un peu plus de poids. Sur ce que vous évoquiez sur la coopération décentralisée, on travaille beaucoup depuis 3 ans avec le ministère des Affaires étrangères sur cet appel à projet, coopération décentralisée. Il y a plus de 3 millions d'euros qui ont été reversés aux collectivités, donc françaises et étrangères. À peu près une trentaine de collectivités en ont bénéficié, une cinquantaine à l'étranger sur un certain nombre de sport santé, sport et éducation, sport et parité notamment. Et donc c'est vrai que pour pas mal de collectivités, elles se disent, je terminerai par là, à l'approche des Jeux, on sait que ça va être le plus grand coup de projecteur que toute collectivité peut attendre. Sauf exception, en France, vous le savez sans doute, on aura 1 milliard de gens devant la cérémonie d'ouverture, 3 milliards qui vont regarder les Jeux, 25 000 journalistes accrédités. Ces journalistes, ils ne vont pas que aller au Stade de France, couvrir l'athlétisme et rentrer. Et on a déjà énormément de sollicitations, ils vont vouloir savoir... qui sont les villes engagées, qu'est-ce qui se passe localement, est-ce que le sport a fait bouger les lignes, parce qu'on ne va pas que parler de résultats et de médailles. Donc il est évident que pour les collectivités, ça va être un momentum, et donc nous, on incite ces villes, évidemment, à en bénéficier.
Ben merci, je crois que ça nous permet déjà de poser le cadre. Donc, 3 collectivités, représentants de collectivités sont présentes. Philippe Rio, maire de Grigny. Meilleur maire du monde.
Merci.
Donc vous êtes partenaire du camp de réfugiés Aïda en Palestine. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler justement des projets qui sont conduits par Grigny avec ce partenaire ?
Si vous me permettez un petit propos introductif sur le contexte. Je crois que nous sommes à un point de convergence, à un point de rencontre entre deux choses extrêmement importantes. La diplomatie par le sport, parce qu'on n'obtient pas les JO sans faire de la diplomatie. Je rappelle que le ministère des Affaires étrangères, si je ne me trompe pas même, a créé un poste ambassadeur du sport, et qu'aujourd'hui, l'AFD, qui est partenaire de ces rencontres, finance des projets de développement à l'étranger, où notamment, j'ai cru comprendre que des fédérations, le mouvement sportif, s'engagent à développer, j'ai entendu le basket, le hand, le volley, qui se sont même mis en commun pour développer des actions à l'étranger, ou même le judo qui travaille à un certain nombre de choses, avec, si j'ai bien compris, une petite priorité pour la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse au Sénégal. Donc s'il y a des villes qui sont en contact, en lien et en jumelage avec des villes au Sénégal, voilà, là il y a un petit créneau facile. On sent que la diplomatie française s'oriente sur ça. Donc voilà. Ça c'est la première chose qui est nouveau dans notre pays et qui vient à la rencontre de nos réalités, à savoir de celle de la diplomatie des villes. À travers cette coopération décentralisée, nous faisons de la diplomatie aussi à notre niveau. Et donc, ce moment des JO est extrêmement important et je dirais plutôt l'après-JO. Parce qu'effectivement, soit il y a un point de rencontre et puis à la cérémonie de fermeture, de clôture des JOP, tout s'arrête, la lumière s'éteint. Ou au contraire, on continue et ça nous sert de puissant levier pour continuer à faire de la coopération par le sport et pour le sport. Donc voilà, moi je crois que nous sommes à ce moment-là, on ne doit pas louper maintenant, mais aussi l'après. Alors à votre question, qu'est-ce qu'on fait modestement une petite ville d'un département qui n'accueille pas les Jeux, qui n'a a priori pas grand rapport avec les JOP? Nous sommes effectivement en jumelé avec un camp de réfugiés palestiniens de Bethléem qui s'appelle Aïda, grâce à une association qui s'appelle la JPF qui intervient dans qui accompagne les collectivités dans les coopérations avec ces camps de réfugiés. Nous sommes soutenus par le ministère des Affaires étrangères, je tiens à le dire et je tiens à les remercier. Ils ont été extrêmement proactifs, notamment pour tout ce qui est Palestine dans cette période. Et nous sommes jumelés le 29 novembre, fin décembre, accord du ministère des Affaires étrangères, avec un soutien d'ingénierie, je tiens à le dire, un soutien d'ingénierie du ministère, notamment du consulat de Jérusalem. Et 15 enfants sont venus d'un camp de réfugiés palestiniens à Grigny cet été. C'est des enfants qui, pour la première fois de leur vie, ont joué sur un grand terrain de football, puisque les camps de réfugiés palestiniens sont extrêmement étroits, extrêmement denses, et avoir un terrain à 11 contre 11 est juste impossible. Et donc, à Aïda, le terrain, qui est un petit terrain dit A7, est collé au mur de démarcation entre la Palestine et Israël. Vous imaginez la force que cela peut créer comme échange dans des territoires comme Grigny, mais comme une très grande partie de la Seine-Saint-Denis, lorsqu'on parle de ghetto, de ségrégation sociale, de ségrégation spatiale. On atteint là, bien évidemment, des niveaux extrêmement importants et on voit que le sport crée une relation extrêmement importante. Aujourd'hui, au début, on avait prévu deux éducateurs sportifs qui aillent là-bas pour entraîner, continuer à donner des petites astuces, et former en fait plutôt les éducateurs là-bas, parce que c'est la demande du camp d'Aïda. Aujourd'hui, ils sont 6 à vouloir y aller, parce qu'il y a eu un coup de foudre réciproque. Et c'est ça la force du sport, de pouvoir créer des choses comme ça. Nous avons aussi, j'en profite parce que au JOP de Paris 2024, il y a du hip-hop qui rentre au JO. Et ben nous, on a fait des rencontres de danse avec du hip-hop. Et pareil, on a des danseurs qui vont aller là-bas, voir, comprendre d'abord, parce que c'est aussi voir et comprendre une réalité, une force de vie, et puis échanger autour du sport. Donc voilà, nos deux premiers points d'accroche, c'est le foot, le truc le plus populaire, un peu fastoche, mais très intéressé par exemple sur le développement du foot féminin. Ah, mais peut-être nous on a besoin de ça, comment avez-vous fait? Donc voilà, on est dans l'échange de pratiques, ça nous apporte beaucoup, véritablement, humainement. On essaye d'apporter en retour, je dis hip-hop, et puis la semaine dernière, on avait deux escrimeuses dans le cadre de ce réseau de la JPF, deux escrimeuses qui étaient en tournée un peu en Ile-de-France. Je regarde la Seine-Saint-Denis, ils étaient à Noisy-le-Sec. Et donc, qui ont fait découvrir leur passion, qui est le sport, pratiqué dans des conditions certes un peu spéciales, mais comme quoi le sport permet aussi à ces personnes passionnées par une discipline, bah, à pouvoir échanger, aller à la rencontre. Et ça, c'est la plus grande force de nos échanges. Donc les coopérations décentralisées par le sport, je vois qu'il y a la ville d'Allonne ici, la grande ville d'Allonne, qui est près du Mans. Plutôt c'est le Mans qui est dans la banlieue d'Allonne. Une ville très populaire qui va accueillir la délégation palestinienne, par exemple. Et donc, ce sont pour les villes, voilà, les JO, c'est aussi ça. C'est aussi des vieilles coopérations où le sport prend une autre connotation. Et on se dit, là, on a véritablement, en matière d'échange, d'humanité, de fraternité, les valeurs positives du sport, qui ne sont pas le sport compétition, qui n'est pas le sport spectacle, mais qui est le sport à portée d'humanité. Et ben ça, ça crée des choses extrêmement importantes. Et je terminerai par ça. Localement, nous, c'est la première fois qu'on fait de la coopération décentralisée. Localement, ça crée quelque chose dans nos clubs sportifs qui sont déjà engagés par nature, qui sont des bénévoles. Et ben, ça donne un souffle nouveau. Ça, voilà, et ça crée une ambiance qui est vraiment très positive. Et voilà, moi, j'invite à celles et ceux qui n'ont pas encore pu faire ce pas-là de le faire. C'est vraiment du gagnant-gagnant parce que c'est du donnant-donnant dans les deux villes et dans les deux pays.
Merci beaucoup. Sur le Sénégal, on a une forte délégation sénégalaise aux rencontres, donc, qui sont d'ailleurs souvent très friands d'échanges. Donc, ce sera aussi l'occasion de leur porter les messages qui concernent le sport. Et vous parliez tout à l'heure de, peut-être dans un deuxième temps, le sport féminin. Et donc, ça me permet de faire la transition avec Michèle Baudard. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous êtes conseiller municipal à Tremblay. Et donc, vous, le sport féminin, c'est l'un des aspects de votre coopération dans le cadre d'un projet sur le rugby avec vos partenaires au Burkina.
Absolument. Donc, c'est l'attrait que crée ces JOP et tout ce qui va avec. Donc, on a un projet en ce moment qu'on est dans la phase de diagnostic qu'on mène donc avec la FGT, avec la ville de Benjala en Palestine et en parallèle la ville de Boyeros à Cuba. L'idée, c'est de développer la pratique féminine en s'appuyant sur le rugby. Alors pourquoi la pratique féminine? Parce que c'est un axe fort de notre ville. Bon, c'est une petite ville, hein, 36 000 habitants, mais on a quand même 47% de nos scientifiques qui sont de sexe féminin. En plus, comme l'a dit Monsieur Rio, c'est un des critères sport et parité qui peut nous permettre d'aller plus facilement à la recherche de subsides pour mener ce projet. Voilà, on est dans la phase de diagnostic. On va s'en envoyer une première délégation en Palestine très bientôt pour finaliser ce diagnostic. L'idée, c'est de s'implanter dans le milieu scolaire, former, comme vous l'avez dit, des cadres. Et pourquoi pas aider au développement de la pratique en club du rugby. Alors, pourquoi le rugby? C'est parce qu'on a aussi... Il faut s'appuyer sur des experts, des gens qui savent faire. On peut toujours parler de parité, mais encore faut-il savoir le mettre en œuvre. Et nous, donc, on a un club de rugby, Terre de France Rugby, qui est un club qui a réussi cet enjeu d'amener la pratique féminine, la pratique du rugby au niveau féminin, alors qu'a priori, le rugby, ce n'est pas un sport qu'on irait directement envers les féminines. Donc, le fait qu'il ait réussi, pour nous, c'est un gage de garantie de s'appuyer sur ce secteur-là, comme M. Rio. Ça donne vraiment un élan très particulier au sein de notre club de pouvoir participer à ce projet-là.
Merci. Alors, vous avez aussi accueilli des délégations cubaines, burkinabées. Et puis, il y a une question que je voudrais vous poser. En quoi, dans le cas de Tremblay, les JOP, les Jeux Olympiques et Paralympiques, ont contribué au renforcement des coopérations existantes que vous aviez à Tremblay?
Alors, donc, nous avons déjà deux coopérations qui existaient, hein, avec le Mali et la ville de Fatao et le Burkina Faso avec l'Européenne. On connaît le climat politique tendu entre les autorités françaises et ces deux nations. L'approche des JOP et nos CPJ, par la terme bien appelée, nous ont permis de redynamiser ces coopérations en prenant le thème du sport. Voilà, en premier lieu. Après, on a un deuxième facteur. On avait lancé déjà des coopérations. On avait initié quelques coopérations, quelques projets, justement avec Cuba et la ville de Boyeros. Pourquoi? Parce que Boyeros, c'est une ville aéroportuaire, comme Tremblay en France, avec le CDG, avec l'aéroport CDG. Et donc, on avait lancé une première idée de collaboration sur le thème du sport et également avec la ville de Benjala en Palestine. Le Covid a tout fait tomber. Voilà, donc, et les JOP, nos CPJ, l'international, projet de coopération, nous ont permis de relancer cette dynamique-là. Voilà, donc, conforter celle qui était et relancer des dynamiques de coopération qui avaient été interrompues, on le sait, comme tous, avec le Covid.
Pardon, juste pour rebondir sur les propos de, des deux intervenants sur les CPJ, donc les centres de préparation aux Jeux. C'est quelque chose que le Comité international olympique demande à la ville hôte ou aux pays hôtes pour Paris 2024. Il y a 1000 centres de préparation aux Jeux qui ont été identifiés, qui sont en fait des centres d'excellence. Donc ça veut dire, je fais de l'athlétisme, quels sont les 128 pistes d'athlétisme qui ont, du point de vue de la Fédération internationale d'athlétisme, les caractéristiques qui permettent de m'entraîner à haut niveau. Et c'est valable pour tous les sports, exception en fait du surf et du golf pour des raisons que vous pouvez imaginer. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 1000 CPJ se trouvent dans 500 collectivités qui sont toutes terres de jeux 2024, parce que ça permet de créer du lien. Et nous, on a eu tout ce travail d'accompagnement, ou en tout cas auprès des collectivités, pour leur dire, plutôt que d'accueillir, comme c'était le cas auparavant, hein, à Rio, à Tokyo, à Londres, et même auparavant, une équipe, l'équipe d'Espagne de volley, qui vient 4 jours s'entraîner, elle arrive, elle prend son hôtel, elle va dans le gymnase, elle ressort, il ne s'est rien passé en termes d'échange. On incite beaucoup les collectivités à proposer, à mettre en place des rencontres dans les écoles, des groupes scolaires. Et c'est vrai qu'in fine, aujourd'hui, il y a à peu près 15% des centres de préparation aux Jeux qui ont été visités. Il y a des relations dans la durée qui sont en train de se structurer, de se créer, puisque je parlais hier avec le département des Bouches-du-Rhône, dans la ville de Miramas, qui est dans les Bouches-du-Rhône, qui a une nouvelle piste d'athlétisme. Il y a des Kenyans qui sont venus, donc les Kenyans d'athlétisme, ça fait partie des grandes références. Ils sont venus déjà 3 fois. Et donc, il y a une relation... c'est-à-dire qu'on imagine que les habitants de la ville vont supporter autant la France que le Kenya, sans doute, au moment des compétitions d'athlétisme. Le Kenya sera peut-être meilleur que la France, d'ailleurs. Et on voit qu'il y a des relations comme ça dans la durée qui peuvent éventuellement déboucher sur ce que vous évoquez, c'est-à-dire de la coopération qui dépasse, puisque au lendemain des Jeux, c'est quelques 1000 centres de préparation. Et ils auront ce tampon. Et donc, en 2025, 26, 27, les grands événements sportifs vont se poursuivre, en France et à l'étranger, en Europe notamment. Et donc, il y a des délégations qui se diront... Moi, je reviendrai dans cette ville-là parce que j'y ai mes habitudes, que j'ai aussi des bons souvenirs, que j'aurais envie de poursuivre l'aventure, quitte à faire quelques centaines de kilomètres pour aller à la compétition.
On va maintenant passer à un autre échelon territorial, à savoir le département. Zainaba Saïd en Zoom, vous êtes conseillère départementale déléguée au sport du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Et donc... comment ça se passe quand on est un département dans l'accompagnement des, peut-être pour commencer, des villes du territoire, dans le cadre de la préparation des JO?
Alors, merci pour l'invitation. Et je pense que, enfin, je voulais délivrer un petit message à Michel Baudard, parce que Tremblay en France, on a beaucoup parlé du sport féminin, mais c'est quand même une des communes dans le département qui respire, qui pense sport au quotidien. Et ce que Michel vous a évoqué là et vous a ne reflète qu'une toute petite partie de ce que fait la ville pour le sport. Et si toutes les communes étaient comme Tremblay en France, je pense qu'on se porterait bien en termes de sport et de performance aussi. Peut-être pour l'athlétisme, on serait meilleur, mais bon, ça, c'est à voir. En termes de département, comment on voit et comment on accompagne les communes? Déjà, c'est vrai que le département de la Seine-Saint-Denis va accueillir tous les athlètes et tous les yeux du monde seront braqués sur notre département. Et on a une... j'entends monsieur le maire qui dit on va pas accueillir des preuves, mais nous, on a une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes en disant qu'il ne faut pas qu'on se rate. Il faut vraiment pas, il faut qu'on puisse accueillir correctement les Jeux. Et l'enjeu pour nous, sur le département, c'est dire que même s'il y a certaines villes, certaines collectivités qui vont accueillir les Jeux, il faut absolument que tout le département de la Seine-Saint-Denis puisse se dire que les Jeux aussi se sont déroulés pour nous. Et donc, nous avons développé, accompagné les villes justement pour pouvoir s'approprier ces Jeux olympiques et paralympiques, notamment par plusieurs dispositifs, notamment 24 sites pour 2024. C'est une proposition qui permet d'occuper l'espace public par le sport, et donc c'est porté par le GDOS de Seine-Saint-Denis, et nous avons toutes les semaines pratiquement une ville de Seine-Saint-Denis dans son espace public qui propose des activités sportives aux passants. Et donc ça a permis déjà d'ancrer les Jeux petit à petit dans le département. C'est un enjeu fort pour nous, et en termes de coopération aussi, comme on va accueillir le monde, forcément on attend à avoir des liens interculturelles qui se font, notamment par l'accueil des délégations étrangères. On a cité Tremblay ou d'autres villes en France qui vont accueillir plusieurs délégations. Tremblay, ce sera la délégation cubaine, mais j'en suis certaine. Et j'ai eu d'autres peut-être anecdotes du passé. Toujours la bonne ambiance et le sourire qu'on évoque. Nous avions accueilli une délégation, nous avons accueilli tel pays. Et je rejoins Raphaël qui disait que certainement à Miramas, ils soutiendront tout autant les Kenyans que les Français. Et bien, ce sera la même chose dans les autres villes du département de la Seine-Saint-Denis, parce que ça participe au fait d'échanger et de s'enrichir de la culture de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle ça fait partie des petites choses que nous faisons aujourd'hui pour s'assurer que les Jeux soient acculturés par l'ensemble de la population. Après, je sais pas si vous... Ensuite, le fait de pouvoir accueillir le monde, c'est aussi de penser à d'autres coopérations, ou peut-être renouveler ou réactiver certaines coopérations, ce qui permet aussi, j'allais dire que le sport est un prétexte, mais plutôt une occasion de développer des enjeux communs, comme l'égalité femmes-hommes, l'adaptation au changement climatique, et pourquoi pas aussi le progrès économique. On a parlé du Sénégal, mais je pense que tout le monde est focus sur le Sénégal. Nous aussi, nous avons pris des contacts avec le Sénégal dans la perspective de l'organisation des Jeux de la jeunesse en 2026. Et petite anecdote, il s'avère que le coordonnateur Ibrahima Wad de ces Jeux est un ancien athlète de Seine-Saint-Denis. Et donc l'enjeu aussi, c'est de faire participer autant la société civile, ici et là-bas, afin de créer des liens solides et durables. Donc ce ne sera pas juste des liens entre coopération, entre collectivités, mais vraiment d'associer tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a évolué dans la réflexion de ce qu'est une coopération, et il faut penser aussi réciprocité. Il faut penser échange. Tout aussi, nous avons aussi bien à apprendre de l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce dont nous avons besoin, avoir des experts des deux autres côtés. Et Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure en préambule en disant après les JOP, la lumière s'éteint. Nous, on a cette notion d'héritage. Il y a un risque. On a cette notion d'héritage qui est assez, qui nous taraude aussi. Et c'est une des raisons pour laquelle Paris a réussi. Je dis Paris ici, hein, mais entre nous, en Seine-Saint-Denis, avec Michel, on dit Seine-Saint-Denis 2024. Mais a réussi à avoir ces Jeux parce que l'héritage est omniprésent dans nos têtes. On pense bien sûr aux équipements sportifs, puisque la Seine-Saint-Denis est extrêmement carencée. Et ça nous a permis d'être un coup d'accélérateur. On pense au CAO, Centre Aquatique Olympique, mais pas que, parce que toutes les piscines qui vont être sites d'entraînement ont bénéficié aussi de crédits pour être rénovées. Et on veut aussi que ça a un impact pour la population, de se dire, grâce au JOP, nous avons eu ça, et grâce au JOP aussi, maintenant, nous pouvons, pouvoir faire du sport dans de meilleures conditions. Ensuite, ce qu'on propose en Seine-Saint-Denis, plus spécifiquement à la jeunesse, c'est des dispositifs particuliers. On a décidé de lancer 130 pays pour 130 collèges. Chaque collège il y en a 130 en Seine-Saint-Denis. Chaque collège de la Seine-Saint-Denis, et on propose d'être associé à un pays où, à travers la dimension sportive, mais aussi culturelle, les enseignants vont proposer pendant toute l'année des ateliers spécifiques à ce pays. Ce qui fait que, certainement, en Seine-Saint-Denis, on aura des collèges qui vont suivre plus spécifiquement tel ou tel pays, parce qu'ils auront beaucoup appris de la culture de ce pays. Et même si les JO auront lieu pendant les vacances scolaires, on s'est assuré que l'ensemble de ces collégiens puissent assister à une épreuve des Jeux paralympiques en septembre. Et ça, c'est très important pour nous, parce qu'on a besoin aussi de cette culture, de se forger des souvenirs. Et là, quand même, c'est un événement mondial. Moi, quand j'y pense, je pense que tout le monde ici s'est déjà levé à 4 heures du matin pour suivre une épreuve donc on ne connaissait pas au départ, mais on s'est dit pourquoi pas, parce que, et puis on prend goût à suivre des épreuves un peu moins connues sur notre territoire. Et les JOP, moi, ça me rappelle, Ça me rappelle tout ça, toute cette envie, cette ambiance. Et j'ai hâte de pouvoir la vivre en Seine-Saint-Denis. On a aussi un autre programme concernant la mobilité internationale, c'est Erasmus+. Et on veut s'assurer que nos jeunes, puisqu'on est le département le plus pauvre de France métropolitaine, s'assurer qu'ils puissent aussi s'ouvrir à la culture, s'ouvrir à la mobilité. Et ça, c'était très important. Le dernier dispositif que je voulais vous parler, c'est tous volontaires, mais je suis sûre que Yann en parlera mieux que moi. Il y a déjà plus de 1000 inscrits, parce qu'on voulait éviter de tomber dans l'écueil. Oui, ben, les JOP, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour les habitants, c'est que pour les paillettes, c'est que pour les autres. Et on voulait s'assurer que l'ensemble des séquano-dunisiens puissent avoir l'occasion de vivre au plus près ces JOP. Pour terminer, je dirais qu'on a l'habitude d'être un département stigmatisé. On intériorise beaucoup cela. Et aujourd'hui, peut-être que notre objectif, c'est que les habitantes et les habitants de Seine-Saint-Denis soient fiers d'avoir accueilli le monde pendant les JOP. Et que pour une fois, on parlera de la Seine-Saint-Denis de manière élogieuse. Voilà.
Merci. Vous disiez tout à l'heure, on a un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On espère que tout va bien se passer. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On entend parfois que la Coupe du Monde de rugby, c'est un peu le crash test là, de JO. Vous nous direz côté comité d'organisation si vous le voyez comme ça ou pas. Mais en tout cas, on espère aussi que tout se passera bien. Alors, dernier intervenant, non pas Yann, tu n'es pas encore directeur général, mais Thomas Cossé. Hein, parfois, on fait la modif sur les slides.
Un match, ça se gagne aussi avec les remplaçants. Il faut savoir sortir du banc. Les finisseurs, merci.
Donc Thomas Cossé, directeur du réseau et des programmes de volontariat. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux nous parler de ce programme volontaire Terre de Jeux Paris 2024?
Oui, tout à fait. Très heureux de pouvoir l'évoquer auprès de vous. Ça fait écho à beaucoup d'initiatives et de mots forts qui ont été évoqués, les notions d'humanisme, d'engagement, d'héritage, de mobilité, de solidarité. Donc la question pour nous, en tant qu'opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en charge du développement du volontariat international, c'était de savoir comment le volontariat international français, dans sa diversité, pouvait trouver un espace de contribution et de développement aux enjeux portés à travers l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, et puis pour nourrir également tous ces enjeux de diplomatie, de coopération, de relations que permettent d'envisager des événements de cette envergure. Vous dire également que je vais vous faire quelques éléments de présentation, mais aussi de propositions tout à fait concrètes qui, j'espère, susciteront votre intérêt. La démarche du projet volontaire pour Terre de Jeux 2024, elle est née d'une rencontre, comme souvent, avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques, où on est arrivé sur un double constat. Le premier constat, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour permettre à la jeunesse du monde de s'engager dans le cadre de cet événement. Nous, on est présents dans 24 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, du Pacifique, partout. Lorsqu'on parle des Jeux, les yeux brillent. Comment je peux faire pour y participer, pour y contribuer? Le deuxième sujet, c'était celui de l'héritage. En considérant, et vous le vivez à travers vos projets de coopération, que le sport, au même titre que de la culture ou d'autres thématiques très inclusives, contribue à faire vivre très concrètement, élargir des partenariats, permettre d'ouvrir un accès au monde à des acteurs qui ne sont pas forcément les plus près. Le troisième sujet pour nous, ça a été celui de l'enjeu de structuration autour de Dakar 2026. Ça a été évoqué. Et comment, donc, pour la première fois, des Jeux olympiques de la jeunesse sont organisés sur le continent africain, donc c'est quand même énorme. Et c'est un challenge pour permettre aussi, de notre point de vue, à la jeunesse du monde, à la jeunesse du continent africain, mais pas que, de s'impliquer autour de cet événement. Donc on a monté un programme qui a pour objectif d'accueillir en France 90 volontaires venant de 10 pays, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et du Proche-Orient, pour participer au sein de nos réseaux hein, qui travaillent sur les questions de sport citoyen, sport développement, sport santé, à des missions d'intérêt général dans le cadre du service civique. L'idée, c'est aussi que ces jeunes, pendant le temps de mission en France, ils puissent participer comme volontaires à l'organisation des épreuves hein, pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais ça va au-delà. Hein. L'idée, c'est de pouvoir permettre à ces jeunes de s'investir en France sur des missions d'intérêt général en lien avec les enjeux de sport et puis de les réinvestir à leur retour auprès des réseaux de leur pays et d'entretenir ce que l'on espère être des relations de partenariat qui vont se nouer. Donc on a construit cette initiative en partenariat avec 10 ambassades labellisées Terre de Jeux. Je peux vous citer les pays. Hein. Il y a 3 pays d'Afrique. Donc il y a le Ghana, le Bénin, le Tchad. Il y a 3 pays d'Asie, le Cambodge, l'Inde et les Philippines. Il y a le Liban et il y a l'Équateur et le Pérou en Amérique latine. Donc dans ces pays, on a identifié une dizaine de jeunes par pays, bon, ça, on arrive à 90 aujourd'hui, qui ont été sélectionnés en lien avec les ambassades. Alors, on a été obligé de les sélectionner avant. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'ils puissent être inscrits sur la base du COJO qui permet de mobiliser les volontaires. Ce sont des jeunes qui sont déjà engagés dans leur pays auprès de réseaux d'acteurs du sport et de développement et qui sont aujourd'hui prêts à partir. On a obtenu un financement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour permettre l'organisation de ces mobilités. On n'a pas encore bouclé 100% du budget, mais on s'en rapproche. Donc les jeunes, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont formulé des choix par rapport à des villes sur lesquelles ils souhaiteraient s'engager ou en tout cas pouvoir participer en tant que volontaire. Alors est-ce que c'est par affinité par rapport à des épreuves ou par rapport à des localités ? Il y a certainement un peu des deux. Donc ils ont ciblé les villes hautes, mais pas que. Donc ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un filtre et une capacité à vous proposer, si vous êtes intéressé, de mobiliser les acteurs de vos territoires pour accueillir en lien avec peut-être vos partenaires de coopération, ces volontaires pour travailler soit dans des clubs, soit auprès de ligues, auprès de différents espaces que vous pourrez trouver pertinents. Ce qui est intéressant également de vous signaler, c'est que c'est, pour ces jeunes, l'idée, ce n'est pas de faire un one-shot, hein, c'est de bien les intégrer dans un parcours d'engagement qui comprend une période d'engagement dans leur pays, une période en France dans le cadre du service civique pendant 10 mois et une période de réinvestissement au retour hein, dans leur pays. Donc il y a vraiment cette idée de mobiliser ces jeunes pour en faire quelque part des ambassadeurs en amont et en aval de cette expérience. Vous dire également du coup, qu'on va lancer un appel à manifestation d'intérêt pour identifier les réseaux d'acteurs qui seraient intéressés par l'accueil de ces jeunes. Vous êtes bien évidemment invités à en prendre connaissance et n'hésitez pas à vous adresser à nous si vous voyez des connexions possibles par rapport à des initiatives que vous menez. Nous, on pense hein, que du point de vue d'une collectivité, ça peut être intéressant parce que ça peut permettre de nourrir concrètement un partenariat qui est en cours et qui pourrait être intéressé, renforcé par ces questions-là, parce que c'est du clé en main. Donc, à la collectivité, déjà, ça ne coûte rien. Alors après, si vous avez des possibilités de valorisation de 2-3 choses, nous, ça nous intéresse toujours hein, pour faire en sorte qu'il y ait plus de volontaires là-dedans. Mais les mobilités, normalement, les hébergements pourront être financés. Et puis, en termes de mise en œuvre, il n'y a pas de charge hein, d'ingénierie particulière pour la collectivité. C'est vraiment du gagnant-gagnant, de la connexion de réseau pour qu'on puisse faire en sorte un peu tous ensemble hein, que l'événement puisse prendre la plus grande ampleur possible. Et vous évoquiez les enjeux de notoriété. Je pense que c'est aussi des initiatives qui intéresseront certainement les médias, puisque c'est aussi intéressant d'avoir des angles vus un peu différents hein, sur ce que peuvent générer les jeux. Voilà en quelques mots, je reste bien sûr à votre disposition.
Merci Thomas. Et donc au-delà de ce que ça apporte, de ce que vont ramener les volontaires dans leur pays, et ce dont tu parlais tout à l'heure, donc du réinvestissement, Pour toi, qu'est-ce que ça leur apporte après, pour eux, pour leur avenir, plus individuellement ?
Ça, indéniablement, je pense que tout le monde serait partant et dans les starting blocks. Enfin, je pense qu'il y a déjà un effet d'attractivité très fort de la participation en tant que volontaire sur les Jeux. Ça, c'est important. Et faire en sorte que ce ne soit pas que des volontaires français qui s'impliquent comme volontaires, mais que ce soit des volontaires du monde qui contribuent à rendre l'événement mondial depuis la France, ça, c'est extrêmement important. Après, pour les volontaires, l'intérêt pour eux, il est de plusieurs ordres. Il est d'abord lié au caractère formatif de cette expérience. Ils vont aller dans des réseaux de coopération, des clubs, des ligues, des fédés, etc. Ils vont apprendre comment ça marche. Ils vont apprendre à travailler dans des contextes différents, et c'est autant de richesses qu'ils seront en capacité de réinvestir à leur retour. Je pense aussi que c'est extrêmement important de travailler sur la question de l'image et de l'image que peut renvoyer la France à travers cet événement. On sait qu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs ateliers qui ont évoqué le sujet, il y a un enjeu de concrétiser le défi de la relation équilibrée, du partenariat, de l'hospitalité. Ce sont des valeurs extrêmement importantes de notre point de vue pour continuer d'agir à l'international. Et c'est par ces initiatives, on le croit, très concrètes, très incarnées, humanisées, qu'on arrive à avoir des personnes qui disent « Ah bah oui, mais en fait, c'est pas tout à fait comme on avait l'impression que c'était. Ça peut être mieux, ça peut être moins bien. Il peut y avoir du déceptif, bien sûr, mais ça contribue à cette image positive et de proximité que nous, on souhaite porter à travers les échanges de volontaires. »
Merci, mais en tout cas, je pense que les messages sont passés pour les collectivités qui sont dans la salle. On va passer tout à l'heure au temps de questions-réponses avec l'assistance. Mais avant, Raphaël, si vous le voulez bien, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'appel à projet que vous avez mentionné ? Donc sport et coopération décentralisée, est-ce que vous avez des éléments factuels en termes de montant ou du nombre de collectivités qui ont été, j'allais dire labellisées, mais non, qui ont été bénéficiaires de l'appel à projet ?
Oui, peut-être revenir là-dessus. C'est vrai que ça a été évoqué. Il y avait cette vraie vocation d'ouvrir. Alors, vous savez, le slogan de Paris 2024, ouvrons grand les Jeux, c'était pas uniquement des mots. C'est on l'ouvre au niveau du territoire national et puis on l'ouvre à l'étranger. Et donc, cet appel à projet 21, 22, 23, il a permis, je le disais avant, d'investir, en tout cas de faire bénéficier 3,4 millions d'euros dans une trentaine de collectivités françaises présentes dans cette région. Et en face, on a 64 collectivités étrangères qui ont pu bénéficier de financement. Donc il y a des projets qui se sont structurés. Là-dessus, il y a tout l'écosystème diplomatique français, tous les acteurs qui ont pu y contribuer. Donc on essaye, nous, alors c'est toujours un travail d'équilibre, c'est de dire d'inciter les collectivités, c'est un peu ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire il y a Paris 2024, c'est un gisement d'opportunités sur beaucoup de sujets. Donc évidemment, quand on a proposé ce projet, il y a des collectivités qui disent moi je vais donner la priorité plutôt à des actions locales, je n'ai pas forcément le temps et les moyens de m'engager là-dessus. C'est parfois des questions de dossiers, mais on voit qu'il y a des coopérations qui se structurent, qui se renforcent, des nouvelles qui voient le jour. Ce que j'évoquais sur les centres de préparation au jeu, je pense que ça va se poursuivre, parce qu'on sait que 23-24 sont les années où, en termes de stage et de concrétisation de la venue de délégation, c'est là où ça s'accélère beaucoup. Donc voilà, on se dit qu'on a été on aura sans doute été un accélérateur aussi sur cette question à l'international. Monsieur le maire l'évoquait, il y a un poste aujourd'hui d'un ambassadeur en charge du sport au ministère des Affaires étrangères européennes qui œuvre là-dessus et qui essaye de continuer à pousser ces projets-là. Et on espère qu'au lendemain des Jeux, toutes ces petites graines qui auront été plantées, alors ça sera moins mon sujet, parce que nous, effectivement, on va s'arrêter. Nous, pour le coup, la lumière va s'éteindre quelque part à l'automne 2024. Mais on espère que ce qu'on aura pu suggérer, tous les acteurs, collectivités, fédérations, ambassades et autres, prendront le relais en se disant on a vécu ensemble un événement assez incroyable, on y a été associés d'une manière ou d'une autre, Et donc, voilà, on va essayer sur les années qui suivent de le maximiser.
Merci. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas forcément trop le sujet, c'est assez fascinant de voir qu'au-delà des épreuves, l'écosystème, le nombre d'acteurs que ça mobilise, que ce soit associatif, territorial, en termes à long terme, enfin, c'est assez étonnant. On peut ouvrir le débat et prendre vos questions. On va en prendre peut-être deux ou trois. Jonathan, normalement, il y a aussi des gens qui seront là pour passer les micros. Fleur.
Bonjour à tous et à toutes. Fleur Ferry, moi je suis responsable de la coopération internationale pour le département de la Seine-Maritime et je travaille à la direction sport, jeunesse et coopération internationale. Donc assez naturellement, on fait énormément de liens entre le service des sports et le service de la coopération internationale. On a trois territoires de coopération au Burkina, en Tunisie et au Liban et sur nos trois territoires, on a des projets sport qui sont vraiment centraux. On a d'ailleurs un financement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans le cadre de l'appel à projets sport et coopération, donc sur la période 2021-2023. Donc on a eu un financement de 100 000 euros du ministère. Je ne sais pas si on aura le solde, probablement pas, puisque notre territoire partenaire, c'est le Burkina. Mais c'est un autre sujet. Et dans le cadre de ce projet, on a pu réaliser des actions à la fois au Burkina, mais aussi en Seine-Maritime. Et sur la partie sport et JO, on est labellisé terre de jeu, on a des CPL, enfin voilà, il y a vraiment un investissement très très fort du département sur cette question des JO. La question que je voulais vous poser, enfin, pour vous donner un petit cadre global et aussi vous dire que du coup moi qui connaissais assez peu le secteur du sport étant issu de la coopération, je l'ai découvert là donc depuis à peu près 2 ans. Et en fait ce que j'ai pu constater, et en fait c'est assez amusant parce que le panel aujourd'hui le démontre une fois de plus, c'est que dans le secteur du sport, en termes de gouvernance, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. Et on parle beaucoup de parité, on parle beaucoup de sport féminin, et nous, on est beaucoup sur ces sujets, sport santé, sport féminin, comme vous l'êtes tous. On a un projet, alors pas sur le rugby féminin, sur le foot féminin, mais on cherche vraiment à développer l'accessibilité de ces publics. Et d'ailleurs, je vois que dans la salle, j'ai compté comme ça vite fait, plutôt à peu près 3/4 de femmes et 1/4 d'hommes. Donc j'ai trouvé ça intéressant, juste un constat. Et donc, pour en venir à mes questions, on s'aperçoit que dans que ce soit les comités départementaux, que ce soit les conseils d'administration des clubs, on a majoritairement des hommes. Et moi, ça a été vraiment une découverte quand je suis arrivée dans ce secteur. Je me suis dit, mais où sont les femmes? Il n'y en a pas. Alors, en tout cas, en Seine-Maritime, hein, c'est peut-être différent sur d'autres territoires. Et du coup, j'en viens à ma question. Excusez-moi pour ce préambule un petit peu long. Est-ce que, Monsieur Leclerc, est-ce que le COJO, est-ce que c'est une préoccupation? Et est-ce qu'il y a des choses que vous cherchez à mettre en place pour faire évoluer un petit peu, au-delà de rendre le sport accessible aux femmes, c'est de les inclure dans la gouvernance? Et messieurs et madame les élus, est-ce que c'est aussi un sujet que vous développez? Est-ce que vous incitez les clubs, les comités départementaux, enfin en tout cas les acteurs et les actrices du sport avec lesquels vous êtes en contact, à aller plus sur un déploiement de plus de parité dans la gouvernance des clubs? Voilà, je vous remercie.
Merci pour la question. Je vais faire court et puis je laisserai la parole. Pardon.
Bonjour, je m'appelle Moubarak Lo, je suis un maire au Sénégal, la commune de Niomré. J'étais également ancien président de fédération de taekwondo, je ne sais pas, c'est dans les Jeux olympiques. Parce que nous organisons les Jeux olympiques de la jeunesse au Sénégal en 2026, donc ce serait bien qu'on s'inspire un peu de ce que vous faites au niveau des territoires. Donc sans doute, on va prendre contact avec vous pour qu'on essaye de répliquer ce qui a été fait en termes de mobilisation du territoire aux Jeux olympiques de Paris. Donc, c'est juste pour voir comment répliquer ça. Voilà. Merci.
On va vous laisser répondre.
Alors, sur le sujet, je peux commencer sur le sujet de la parité. C'est un sujet qui, alors, bien évidemment, dépasse je dépasse le sport, mais si on traite du sujet sport, et vous l'avez noté, c'est effectivement, moi pareil, alors ça fait 9 ans que je travaille chez Paris 2024, mais j'ai appris à découvrir que c'était assez spécifique, et en tout cas très fort, et qu'il y avait une marge de progression relativement importante. D'un point de vue Paris 2024, on a ce rôle de catalyseur ou d'accélérateur, et donc il y a la force du symbole, il y a des actions fortes. On sera par exemple les premiers jeux de l'histoire où il y aura autant d'hommes que de femmes sur la ligne de départ. Ça paraît, c'est symbolique, mais c'est extrêmement lourd de conséquences, d'arbitrage à beaucoup de niveaux. Pour dire une chose très simple, quand on passe de 45, ce qui était en gros le cas à Tokyo, à 50, ça veut dire qu'on retire 5% d'hommes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des disciplines qui ont disparu. Du canoë biplace, par exemple, il y a des athlètes qui ont vu leur carrière stopper net parce qu'en fait, on intégrait des femmes. C'était les choix qui ont été faits. Le logo de Paris 2024, c'est la tête de Marianne. C'est un symbole fort, mais voilà. Le marathon des Jeux, c'est la marche des femmes en 1789. Et il y a donc pas mal de choses. Et peut-être un point qui permettra après aux autres acteurs de prendre la parole. Sur la question des territoires, il y a 2 ans, je me déplaçais, j'étais dans une ville, pas la région Île-de-France, et j'ai discuté avec le maire adjoint qui me dit oui, sur la question des équipements, enfin bref, on parle de financement. Et je me rends compte que c'est le 4e équipement sportif qu'on visite de la journée et qui a à chaque fois un nom d'homme. Et je reviens au bureau, je cherche et je ne trouve pas d'études sur la question de la dénomination des équipements sportifs au nom d'homme, au nom de femme. On a pris 6 mois, on a fait une étude, on a regardé avec pas mal d'acteurs. On s'est rendu compte qu'en France, il y a à peu près 10% des équipements sportifs qui ont un nom. Et quand on regarde sur ces 10%, 90% ont un nom de femme, ont un nom d'homme, pardon. Et donc on s'est dit donc très clair, on a appelé une 50aine de villes. Elles nous ont toutes confirmées, on peut faire l'exercice ici, et ce n'est pas du tout une critique, parce que je pense que c'est aussi le poids d'une certaine histoire. Et donc on s'est dit, on va lancer avec le ministère, pas mal de comités olympiques, paralympiques, un programme qui s'appelle Sport et Parité. Et ce matin, je l'ai appris là, Floria Gay, qui est une grande athlète qui était en Essonne, pas très loin de chez vous, monsieur le maire, et qui a inauguré une piste d'athlétisme à son nom. C'est la 100e ville en un an qui a fait ce pari-là. Alors, 100 villes, 100 équipements, c'est relativement peu, mais sauf qu'on démontre ça, et l'enjeu qu'on a voulu pointer, c'est de se dire, quand on est une jeune fille, et que, jeune femme, même pas forcément jeune, mais qu'on veut pratiquer, c'est très différent de voir une piscine qui s'appelle Laure Manaudou et qui s'appelle pas une énième fois un nom de Florent Manaudou, par exemple. Et donc, voilà, on démontre quand même pas mal de choses. Donc, je pense que nous, on essaye de braquer des projecteurs sur des vrais sujets sur lesquels il faut faire bouger. Après, nous, on déclenche éventuellement quelque chose. Après, c'est les collectivités, hein, il y en a 36 000. Si elles décident de bouger, de pas bouger, voilà, nous, notre rôle se limite là. Mais je pense qu'il y a des... Voilà, et puis je cite pas évidemment le travail qui est fait par le CNOSF, parce que vous parlez de gouvernance. Évidemment, alors, quand on regarde Paris 2024, la maire de Paris est une femme, la présidente de la région Île-de-France est une femme, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques est une femme, la présidente du CNOSF jusqu'à quelques temps était une femme, et celle du comité paralympique était une femme. Donc il y avait une sorte d'équilibre qui s'était trouvé là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a énormément de travail sur les fédérations françaises, évidemment un problème.
Bien. Non, mais. Ouais, j'y vais. Derrière le mot gouvernance, on va dire que c'est politique et sport.
En fait, c'est dans les clubs aussi.
Oui, c'est ça. Je vais faire mon. Focaliser là-dessus. Et c'est pour ça que je reviens sur le mot politique et sport. Qui dit gouvernance, je rappelle que dans les fédérations françaises, le mouvement sportif est issu aussi d'élections démocratiques. Localement, nous, on a réglé ça. On est obligé de présenter des listes à parité. Le mouvement sportif pourrait faire ça très facilement. C'est-à-dire s'obliger, dans ses règlements, à proposer la parité dans les listes. Après, localement, pour répondre à votre question, dans nos petits clubs, qui est fait de bénévoles, d'engagés, ça me paraît difficile. Voilà, on peut imaginer, mais on est plutôt en ce moment dans une période de désengagement des bénévoles, y compris locaux. Ma réflexion, c'est de me dire, si on fait ça, on risque d'avoir quelque chose un peu difficile pour faire vivre nos associations locales, qui sont d'ailleurs issues de fédérations, puisqu'ils participent à des compétitions, ou pas d'ailleurs. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, je trouve que c'est compliqué. Et pour nous, je pense qu'il y aurait une aide à cela, si enfin dans ce pays, et ça fait partie des attentes des JOP, c'est qu'il y ait un petit statut un peu particulier pour nos bénévoles du monde sportif. Parce que vraiment, être trésorier dans un club, être président, être etc., tout ça, franchement, si on ne fait pas une avancée en 2024, et c'est tout le défi de l'héritage. Et effectivement, je reviens à la lumière, elle s'éteint ou elle ne s'éteint pas. Je comprends qu'elle diminue d'intensité. Mais si on n'arrive pas de donner à ces millions de bénévoles dans nos clubs qui font que le sport participe à la cohésion nationale, parce que c'est ça le sport, c'est de la cohésion nationale. Donc voilà, moi je pense que nos législateurs ont intérêt à dire dans les fédés parité obligatoire lorsque vous présentez une liste. Après, présidence, etc., autre chose, mais au moins parité. Et puis ensuite, dans nos clubs, aidons à faire en sorte que le bénévolat, on ait quelque chose qui fasse qu'on ait envie d'y aller un peu plus et qu'on y reste, surtout parce que, encore une fois, c'est extrêmement compliqué.
Oui, je me permets de répondre. Alors, tout d'abord, pour un peu appuyer le propos de Raphaël concernant la dénomination des équipements publics, en Seine-Saint-Denis, on a fait le choix que tous les équipements publics, nouveaux, collèges, crèches, certaines crèches ont été débaptisées, maintenant portent le nom d'une femme. On a inauguré, il n'y a pas très longtemps de ça, une piscine à Pierrefitte-sur-Seine qui se nomme Claire Soupiot, athlète paralympique, une grande nageuse, et qui a fait les Jeux de Séoul en étant valide et en étant aujourd'hui, elle concourt pour pouvoir faire ceux de l'an prochain. Donc ça aussi, c'est important d'être plus visible dans l'espace public. Alors moi, je suis conseillère départementale en charge du sport, et la première fois que je me suis déplacée sur le terrain, on a salué celui qui m'accompagnait, en disant, en pensant que c'était lui le conseiller. Et c'est vrai qu'il faut qu'on change aussi, nous, notre vision des choses, parce qu'aujourd'hui, dans nos logiciels, forcément, il y a certaines délégations qui sont réservées, entre guillemets, pour les hommes et les autres pour les femmes. Donc ça aussi, ça fait partie de nos déconstructions qu'il faut faire. Et concernant les bénévoles au sein du mouvement sportif, mais aussi mouvement associatif en général. Effectivement, c'est déjà, il y a une crise du bénévolat. Et donc, je rejoins le maire, c'est déjà compliqué de s'impliquer et de passer. Alors, pour une femme, c'est souvent sa quatrième journée. Donc, ce n'est pas facile. Et il y a aussi un autre frein, c'est que nous, les femmes, et je m'inclus dedans, on a des croyances limitantes. On se dit, non, on n'est pas capable, on ne ferait pas mieux. Et ça aussi, il faut participer à aller chercher cette égalité. Certes, au niveau des exécutifs, que ce soit municipaux, départementaux, régionaux, il y a l'obligation de parité. On a cité les maires féminins ou présidentes de région, c'est important. Mais aujourd'hui, très peu de femmes veulent passer le pas de s'engager dans ce type de fonction parce qu'elles pensent ne pas avoir les épaules pour. Donc nous aussi, on doit avoir un travail pour motiver plus de femmes à s'engager réellement pour après être plus tard des modèles. Parce que parler de la gouvernance au sein des clubs, mais aussi dans l'encadrement. On a très peu d'entraîneurs, alors je ne sais plus comment ils veulent qu'on le dise, entraîneuses ou entraîneurs, mais très peu d'encadrants. Et ça aussi, ça freine la pratique féminine, parce que quand on a un entraîneur, on n'ose pas, en tant qu'athlète féminin, lui dire, en fait, j'ai tel souci, alors que ça passerait peut-être plus facilement face à une femme. Bon, ce sont des questions qu'il faut aussi régler, je pense.
Alors juste pour répondre à la question, sur la pratique féminine, c'est relativement facile. Si on veut vraiment dans une politique sportive, il suffit d'axer beaucoup sur l'enseignement dans le cadre scolaire, puisqu'on sait que c'est là qu'on va toucher les filles. Donc ça veut dire, est-ce que nous, on s'investit collectivité en accompagnant les associations ou en ayant des éducateurs propres qui vont interdire le milieu scolaire? Ça, c'est une première étape. On peut afficher clairement nos ambitions au niveau de l'élévation de niveau. Nous, par exemple, on a un problème avec le basket qui joue en N2 et les féminines en volet. On a affiché clairement, on a dit aujourd'hui, notre priorité, c'est le volet féminin. Ce n'est pas le basket masculin, ce sera le volet féminin. Donc, on affiche clairement. Je pense qu'aussi, pour l'accès aux femmes, aux postes dirigeants, je pense qu'il faut saisir aussi toutes les opportunités de mettre en valeur celles qui exercent déjà cette fonction. Souvent, on l'oublie. Il y a plein de récompenses qui sont possibles, de mise à l'honneur de dirigeants sportifs dans le domaine sportif. On ne les utilise pas, les femmes en or, par exemple, du cross, le comité départemental olympique sportif. Les gens refusent toujours les mises à l'honneur, mais quand finalement elles sont désignées, elles sont contentes de l'avoir reçue. Donc il faut le savoir, ça les motive. Je pense aussi après, ces collectivités locales, qu'est-ce qu'on met comme moyen pour permettre à ces personnes d'exercer une fonction au sein de l'association ? Si on aide, par exemple, un club omnisport en lui apportant une personne à temps complet, on peut exiger que cette personne consacre du temps à la formation de ces personnes-là et aille les chercher. En plus, je pense aussi qu'on a aussi un phénomène de persuasion en faire nos associations, c'est-à-dire, quand vous cherchez des bénévoles dans votre association, ne lui dites pas ce qu'il a à faire, demandez-lui ce qu'il aura envie de faire par rapport à ce qu'il sait faire. Or, souvent, on refute les gens parce qu'on leur dit « je veux un poste de trésorier, c'est ça, c'est ça ». Et la personne, elle s'en va tout de suite. Si on dit « qu'est-ce que tu sais faire ?»« Je pense que je te connais par rapport à ton travail, tu pourrais peut-être m'apporter ça, mais tu as peut-être d'autres choses qui t'intéressent. Est-ce que ça t'intéresse ? Et si oui, comment je t'accompagne pour le faire ?» Je pense aussi qu'est-ce qu'on met comme moyen pour aider les associations à développer tout ce qui est autour de la technologie, etc. Comment on peut travailler chez soi, dans des services et de l'association. C'est autant de petits détails. Si on est tous préoccupés par ça, on peut aider ces personnes-là à accéder au poste, d'occuper une petite fonction et après en prendre une autre et puis peut-être une autre. Et je pense qu'il faut qu'on ait... On a chacun, sûrement, on a un journal, nous, c'est un Tremblay Magazine. Comment on exige de notre service qu'il ait cherché les femmes à mettre à l'honneur dans ce journal ? Pas toujours les résultats, pas toujours que les hommes, mais comment on va chercher ? Et on impose ça, on dit « je veux que dans l'année, j'ai 4 articles par rapport à ça sur une femme. Va me la chercher, va me la chercher. » Et si on cherche un peu, on va trouver quelqu'un qui ne parle jamais, qui dans l'association fait un travail de fou, et on va commencer à l'extraire. Voilà ce que moi je veux dire.
Peut-être rajouter la touche internationale à l'enjeu, parce que je ne suis pas certain qu'il soit purement français, cet enjeu de représentation. Et donc, effectivement, c'est extrêmement important, ça a été dit, de créer ces espaces d'opportunité. Et à travers le programme volontaire Terre de Jeux, on a été très attentif à cette parité dans les volontaires sélectionnés. Clairement, il a fallu aller chercher aussi des jeunes femmes. Il a fallu avoir une sélection positive, je sais pas, je vais pas parler, j'aime pas le mot discrimination à la base, donc mais pour arriver à cet équilibre et dans le cas, tu me parlais des héritages, c'est autant de jeunes femmes de ces 10 pays qui vont avoir participé à de l'activité, à une compréhension aussi des enjeux de gouvernance, puisque ce sont des jeunes, ils ne sont pas forcément en situation de gouvernance, qui vont être en capacité de réinvestir. Et c'est en faisant émerger aussi dans le monde ces espaces, comme on le fait en France, et on voit que c'est difficile, qu'on arrivera à équilibrer l'accès à ces fonctions, à ces pratiques. Et je crois que c'est un objectif que... Enfin, tout le monde a réagi, donc que tout le monde a bien en tête.
On va passer à juste un petit point. Merci déjà pour avoir rappelé tout ça. Et l'importance aussi, Madame la conseillère départementale, de la déconstruction, vous avez insisté. Tout à l'heure, il y avait un atelier sur les droits des femmes. En fait, les collectivités face au recul et avancée des droits des femmes dans le monde, quel rôle pour l'action internationale des collectivités ? Je le précise parce qu'il y a aussi des comptes rendus qui sont publiés après les rencontres.
Juste un mot sur la question de monsieur sur la coopération très rapidement. Évidemment, il y a aujourd'hui une convention qui lie le comité d'organisation de Dakar 2026 avec Paris 2024. Un élément, je pense, important, quand on disait la lumière va s'éteindre, en fait, il faut qu'elle ne puisse ne pas s'éteindre en France, mais aussi dans cette notion
de coopération. Milan 2026, qui va organiser les Jeux d'hiver, réfléchit aujourd'hui à un dispositif qui ressemble à Terre de Jeux 2024, qui s'appellera Terra di Giochi 2026, avec une dimension franchement assez proche, en intégrant davantage peut-être le milieu scolaire et la culture. Moi, parmi les idées qu'on avait eues, qu'on n'a pas encore poussées, mais qui pourraient être intéressantes, c'est de se dire, on va terminer à quelques 5000 villes, 5000, 6000 villes qui seront labellisées Terre de Jeux 2024. Certaines auront été très, très actives, d'autres l'auront été moins. En tout cas, elles auront été connectées au projet. Je ne sais pas aujourd'hui combien il y a de villes en France et parmi ces 6000 qui sont jumelées, par exemple, ou qui ont des projets de coopération avec une ville au Sénégal. Moi, je me dis que si, au moment de clore le chapitre Paris 2024, on avait 5, 10, 15, 20, 50 collectivités qui disent « Moi, j'ai un lien existant ou qui peut être renforcé avec le Sénégal et je vais lui faire bénéficier des 5 ans que j'ai eu à préparer, alors que je n'étais pas une collectivité haute, à préparer Paris 2024 », ça pourrait être un embryon de cette stratégie d'engagement et de mobilisation qui se fera forcément très différemment au Sénégal en 2026 qu'elle ne s'est faite à Paris en 2024. Voilà, c'est des idées qui peuvent germer et évidemment à votre disposition pour en travailler.
Ouais, je n'ai plus le micro, pardon. C'est pas tout à fait une question, donc je vais réagir par rapport à la question la parité et l'accès aux femmes pratiques sportives. Donc moi, je travaille pour une fédération sportive, c'est la FGT, où on travaille beaucoup avec la Palestine, notamment avec une dizaine de collectivités françaises qui sont jumelées avec des collectivités palestiniennes, justement sur la dimension sport et l'accès aux pratiques sportives pour toutes et tous. Et l'expérience, au fait que ça fait 4 ans que je travaille avec les collectivités françaises et palestiniennes, on a organisé au mois de mai un séminaire d'échange des pratiques avec les Palestiniens et les Français, et la parole des Palestiniens a été palestinienne surtout, et c'est important par rapport à ce sujet-là. Je cite 2 interventions. La première qui dit, en fait, le sport n'est pas émancipateur, c'est l'approche sportive proposée dans le projet qui est émancipatrice. Il rappelle, en fait, l'approche où on travaille l'activité sportive et où on inscrit l'accès aux pratiques sportives comme un droit pour toutes et tous, a permis aux femmes de pratiquer, a permis à certaines femmes de devenir animatrice et prendre place dans la société. Et il disait, en fait, on devient actrice de notre quartier, de notre ville. Les gens nous connaissent, les parents nous voient, et on a un pouvoir d'agir sur nos quartiers à travers la pratique sportive. Et du coup, je reviens peut-être, si j'arrive à formuler une question à la fin, du coup, il y a les Jeux olympiques, mais il y a aussi derrière les valeurs de l'olympisme. Et nous, on a beaucoup appris en travaillant avec les Palestiniens qui souhaitaient, au mois de mars, quand on a fait un séminaire à Ramallah, venir aux Jeux olympiques. Mais vu les conditions, surtout financières, nécessitées pour faire venir, on travaille avec des collectivités quand même. Ils ont dit, si on ne peut pas venir en France, on va organiser nos propres Jeux olympiques. On va mettre au cœur les valeurs et l'approche où le sport est un droit pour toutes et tous. Du coup, est-ce que, au-delà en fait de tous les projets qui sont construits dans les territoires français, donc là j'essaye de formuler la question, comment faire en sorte que l'olympisme rencontre les valeurs de l'olympisme, l'olympique rencontre les valeurs de l'olympisme, et l'accès à la démocratisation, à l'accès aux pratiques sportives, et soit posé comme un droit et pas comme le sport au moyen pour... Nous, je termine là-dessus, nous, dans nos, on souffre, en fait, quand on intervient en Palestine, parce qu'il y a d'autres acteurs qui interviennent et qui disent, voilà, le sport pour l'inclusion sociale, le sport pour travailler les relations entre les jeunes, le sport pour, mais jamais le sport comme un droit, comme la santé, comme accès à la santé, à l'éducation. Et la dernière phrase, je termine là-dessus, ça vient toujours des Palestiniens, et ils ont dit, quand on a compris qu'on a le droit à accéder à la pratique sportive parce qu'on a un droit, on a compris aussi qu'on peut avoir d'autres droits si on fait la même démarche. Donc le sport dépasse en fait la simple pratique, c'est vraiment une approche émancipatrice. Et je pense qu'il y a une question quelque part dans mon intervention. Mais...
Oui, on l'a retrouvée. Comme il nous reste peu de temps, je vais essayer d'être bref. On est tous convaincus que le sport, en fait, c'est du soft power. Et donc, pour revenir au débat sur coopération, diplomatie, il faut se dire que les JO étaient un accélérateur de notre prise de conscience que le sport est au cœur de la diplomatie française. Et dans la diplomatie française, aujourd'hui, il y a la place des villes. Voilà. Le sport, vous l'avez dit, les questions sur le droit au sport, vous savez, le droit au sport, ce n'est pas une notion qu'on utilise beaucoup en France. Hein. On parle du droit à la culture, du droit au logement, du droit à l'emploi, mais le droit au sport, c'est une petite notion qui est très peu développée. Et pour autant, on sait très bien, la Seine-Saint-Denis en est la caricature. D'autres villes, on a 30% d'adhérents en moins dans nos clubs. On est en carence en matière d'équipement sportif. Et donc voilà, donc JOP, c'est du droit parce que derrière, y compris le sport business, par rapport à, on est loin des valeurs effectivement de l'Olympie, de la trêve, de la paix, etc. Quelque chose qu'on n'entend plus beaucoup parler autour de l'olympisme. Je suis convaincu, moi, que les villes, elles ont toute leur place sur tout ça. Vous l'avez dit, les exemples des uns et des autres sur leur coopération où le sport est au cœur des sujets, eh ben, on retrouve cette notion de droit au sport, d'échange, de réciprocité, de valeurs communes, de partage, où ben, s'il n'a pas le même maillot, ce n'est pas un adversaire. On fait avec. Et on apprend des uns des autres et on est dans des opérations de formation de savoir-faire, d'échange de pratiques, de formation de futurs formateurs. Donc, on a là un enjeu, c'est la particularité des villes. Je vais prendre ma casquette président de l'Association des maires pour la paix. Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU, disait souvent la paix, elle ne se fait pas uniquement à Genève ou à New York. Elle se fait dans les villages et dans les villes, dans la proximité et la quotidienneté. Et donc le sport aussi. Et les valeurs positives du sport également. Et donc, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, j'avais un témoignage complémentaire de tout à l'heure sur des formes de coopération. Alors mon voisin est timide parce qu'en fait, il se trouve que Tremblay en France a accueilli ce week-end une rencontre de boxe olympique. Et pas amateur, la boxe olympique entre la France et le plus grand pays de boxe olympique qui s'appelle Cuba. Et donc il faut savoir qu'il y a des villes en France qui, en dehors de tous les chemins, font le choix d'accueillir et de préparer des délégations et des athlètes à travers ce type d'échange. Je peux dire des noms, hein, Compiègne, Creil, Noyon. Là-bas, ils font le judo féminin et masculin. Sète va accueillir le volleyball cubain bien avant les Jeux. Pour d'autres conditions de travail, d'autres matériels. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui se font. Et là aussi, on est dans le droit au sport. Je rappelle qu'à Cuba, il y a un blocus, que le droit international n'est pas respecté. Et donc, des collectivités font le choix d'accueillir des athlètes qui veulent se préparer normalement pour les JO, comme d'autres le font avec des femmes afghanes, comme d'autres le font, etc. Et ça, ce sont souvent à l'initiative de villes, là où le droit international bafoue un peu. Eh ben, on voit la force des villes, et c'est pour ça que j'emploie le mot de diplomatie des villes. Dernière chose, et je pense que c'est le défi, c'est cette notion d'héritage. On l'a dit pour plein de choses. Mais ce que l'on a entendu aujourd'hui, c'est qu'il y a des financements qui sont pour 2021, 2022 et 2023. Et après, la lumière s'éteint. Et moi, je pense que CUF, avec l'ensemble des villes qui ont des projets de coopération, doivent saisir le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour dire l'héritage 2024, c'est aussi la coopération décentralisée entre les villes françaises et le reste du monde sur ces questions-là. Ce qui a bien fonctionné, ben continuons à le faire. S'il vous plaît, l'héritage, il est aussi là. Il est aussi dans ces échanges et dans cette poursuite des coopérations décentralisées entre les villes françaises et les villes du monde entier.
Alors, peut-être deux dernières questions. Enfin, il y a deux mains levées, donc c'est parfait. On prendra juste ces questions et ensuite on clôturera.
Bonjour, donc Mélanie Laudriac, je suis responsable du service international de la ville de Nantes et de Nantes Métropole. Je voudrais remercier d'abord M. Rio pour votre dernière intervention sur l'après, parce que justement la coopération décentralisée, on en parle depuis deux jours, on est quand même sur du temps long et on essaye d'éviter l'événementiel à tout prix et plutôt de marquer nos territoires ici et ailleurs avec des projets de long terme. Et donc pour ça, c'est une question très pratico-pratique hein, de technicienne, mais j'aurais aimé savoir si, voilà, au-delà des événements, donc Paris 2024 et j'ai cru comprendre les JO de la jeunesse au Sénégal en 2026, qui devraient aussi générer des appels à projets pour les collectivités. Est-ce que cet appel à projets sport et coopération décentralisée du ministère des Affaires étrangères, vous savez d'ores et déjà s'il sera pérennisé au-delà des événements, et si demain on a envie en tant que collectivité de continuer des échanges de volontaires ou des projets de coopération décentralisée et qu'on a besoin de financement pour ça autour du sport, on trouvera un soutien soit auprès de France Volontaire, soit auprès du ministère, enfin de la DAECT, même si je sais que France Volontaire, c'est le ministère aussi. Voilà. Donc vraiment sur comment on finance nos projets demain après les événements.
Merci. Et Sarah, au fond, qui est aussi présidente du groupe Pays Mauritanie et conseillère municipale de Savigny-le-Temple.
Tout à fait, merci Lucas. Alors c'est moi, c'est pas vraiment une question, mais c'est peut-être juste une petite remarque, puis un retour d'expérience. C'est que c'est vrai que, alors nous à Savigny, on a un long passé de relations internationales, de coopération avec nos villes jumelles, et c'est vrai qu'on a souvent fait, enfin les projets qu'on a organisés le plus facilement, c'était des échanges sportifs. Et alors là, j'ai juste envie de passer un message peut-être aux plus petites communes qui ne savent pas dans quoi s'initier, mais ça peut être déjà un bon début. Et là, JO 2024, c'est juste le bon prétexte en fait pour commencer. Et peut-être, pourquoi pas, voilà, essayer d'avoir des budgets. Mais même avec des tout petits budgets, on peut déjà faire ça. Donc voilà, ce n'était pas vraiment une question, juste une petite remarque. Merci.
Sur l'appel à projet, en fait, c'est le moment tombe bien. C'est-à-dire que on est aujourd'hui à cette rentrée 2023, c'est notre dernière rentrée. Et donc, progressivement, enfin, nous, on le vit en interne, vous l'avez vu également, on est tous en train de s'organiser vers la question de la livraison des jeux. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on a mobilisé, engagé, associé, co-construit, pour des très bonnes raisons. Il y a beaucoup de choses qui ont pu avancer, qui posent les bases, on l'espère, d'un héritage. Et donc, aujourd'hui, et c'est normal, on va accueillir... Il y aura 13 millions de gens dans les stades, 25 000 journalistes, 50 000 bénévoles, un enjeu de logistique organisationnel. Et donc, en fait, la question de la livraison devient clé. Sauf que la bataille sur l'après, l'héritage, elle se joue en fait entre maintenant et, on va dire, février 24. Il y a ce projet de coopération décentralisée. Il y en a un autre que vous connaissez peut-être qui s'appelle Impact 2024 autour du financement d'acteurs associatifs. Le sujet aujourd'hui qui se pose, c'est qu'en fait, et je pourrais même l'élargir aux questions des partenaires financiers qui aujourd'hui ont mis beaucoup d'argent pour financer Paris 2024. Tous ces acteurs sont en train de se dire, je vais rentrer dans la livraison des jeux. Quel engagement j'ai envie de prendre et quelle pérennité j'ai envie de donner à des dispositifs sur lesquels je me suis engagé pendant 2-3 ans. Donc moi, le message que j'ai envie de vous porter, parce qu'en fait, dans quelques mois, j'aurai plus voix au chapitre, en tout cas avec cette casquette-là, c'est de dire que c'est entre maintenant et on va dire les 100 jours qui restent jusqu'à fin 2023, très concrètement, qu'il faut que les acteurs qui sont avec Paris 2024 à la table, avec la DECT, le ministère, sur ce sujet de la coopération décentralisée, c'est maintenant qu'il faut le concrétiser. Pour vous donner un exemple, on faisait depuis 2 ans, on a fait pendant 2 ans avec les dernières 130 ambassades françaises à l'étranger, un relais autour du monde sur 24 heures. On a commencé dans le Pacifique, on a terminé dans le Pacifique, à Tahiti, en mobilisant 130 ambassades. Et qui, on ne devait pas la refaire en 2024. Et en fait, c'est les ambassades individuellement qui sont remontées au ministère en disant, alors que franchement, on parle d'une course qui dure 2 heures dans chacun des pays. Et en fait, le ministère a dit, non, mais en fait, ce n'est pas possible de ne pas le faire. Et donc, de la même façon, je pense que si on arrive à la situation qui est, on ne peut pas laisser ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je me bats, et une partie de mon boulot aujourd'hui, c'est de se dire, les quelques 5 000 acteurs labellisés Terre de Jeux 2024, il est hors de question qu'au lendemain des Jeux paralympiques, on dise c'est terminé, parce que là ça veut dire que c'est la déception terrible qu'on aura construit en fait pour rien, qu'on aura mobilisé pour pas grand chose. Donc moi, le message que j'ai envie de porter, c'est évidemment allez-y, comme disait monsieur le maire, je pense porter au niveau des villes et tous les acteurs en disant il n'est pas possible qu'aujourd'hui donc il y a un vrai travail de lobbying très clair à mener là-dessus, et nous Paris 2024 on sera forcément en soutien, puisqu'en fait l'héritage que Paris 2024 aura, c'est aussi ce que nous, on va apporter demain. C'est très différent de dire en 2025, j'ai travaillé sur Paris 2024, on a porté un projet, mais d'ailleurs, il n'y a plus rien. C'est terminé, c'est un souvenir. Et vous prenez le cas de France 98, c'est à peu près ça.
où on a structuré des choses et voilà 4, 5, 6 dispositifs qui continuent et où Paris 2024 aura été un marqueur, un accélérateur, mais en fait finalement une étape. Une étape vraiment importante là-dessus. Et je rejoins, pardon, sur ce que vous disiez sur Savigny. Évidemment, nous, on insiste beaucoup. Je trouve que la question des villes jumelées, c'est un super exemple d'embryon et le tout début de coopération décentralisée. On a quelques exemples de villes qui nous disent j'ai quatre villes jumelages qui existent. Très souvent, certains sont dormants. Et en fait, à l'occasion de la journée olympique, la semaine olympique et paralympique, l'arrivée des Jeux, on réactionne les choses, on renvoie un mail, on se dit tiens, si on faisait du sport ensemble sur telle journée, si on suscitait un échange, et parfois ça débute un peu là-dessus.
Bon, moi, j'y crois pas trop sur les crédits qui nous tomberaient comme ça pour pérenniser. Par contre, je pense que nous, il faut qu'on pense à sensibiliser le maximum de personnes à ces coopérations. Je vois sensibiliser le monde de l'éducation nationale, plus on aura de gens qui vont être derrière ces coopérations et qui nous accompagneront, plus on a de chance. Je vois par exemple, nous on est en train de travailler en ce moment avec Cuba, on a parlé de Cuba tout à l'heure, on se dit, on va essayer d'intégrer de plus en plus notre tissu économique à cette coopération avec Cuba. C'est-à-dire qu'on va essayer de les mettre en relation, leur expliquer quelles sont les ouvertures à Cuba aujourd'hui pour le tissu économique local et même un peu plus large, de telle manière à leur donner des opportunités éventuellement de s'implanter, etc. Et en échange de ça, comment ils pourraient soutenir, nous, des projets avec nous. On discutait tout à l'heure avec Jamel tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure du projet qu'on a avec le Burkina Faso et la Palestine, également autour du rugby. Bon, voilà, on a eu la chance de travailler avec des éducateurs de Monaco et on se dit pourquoi pas les impliquer dans notre projet. Et après, pourquoi ces gens-là impliqués dans notre projet ne pourraient pas aussi accompagner des projets pour les pérenniser ? C'est pas l'un ou l'autre, c'est comment on associe tout ça. Nous, on voit aujourd'hui avec ce travail qu'ont fait nos Burkinabés dans nos écoles, aussi bien Cuba dans nos écoles, les enfants des écoles reviennent chez eux et ils parlent de la coopération qu'on a tissée avec ces pays-là. Et ils expliquent à leurs parents comment ça se passe là-bas, etc. Et qu'est-ce que la ville a fait avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'on amorce quelque chose qui, j'espère, demain pourra être pérennisé. Et voilà, il fera des petits et on parlera autrement de la coopération simplement aujourd'hui que simplement au travers d'un comité de jumelage. On est jumelé avec un tel. On parlera peut-être autrement demain de la coopération, je pense, grâce au JO et grâce au sport, ce qui nous a, nous, peut-être à nous, ouvert les yeux, alors qu'avant, on ne regarde peut-être pas cette coopération. Mais c'est vrai que les JO, à nous, nous ont ouvert les yeux. C'est une opportunité vraiment pour développer cette coopération et de sensibiliser un maximum de personnes autour de nos projets.
Parfait. Bon, avant de clôturer, monsieur le maire, je fais un pas de côté, parce que le sport, pour le coup, en politique publique, c'est assez plutôt transpartisan, ou du moins c'est l'un des rares sujets qui, semble-t-il, rassemble. Dans le cas de Grigny, où vous êtes partenaire du camp Aïda en Palestine, quid de la dimension politique en fait, de cet engagement qui se manifeste notamment par le projet dont vous avez parlé tout à l'heure?
Je l'ai dit un peu, le sport c'est de la politique, c'est vieux comme le monde. Je rappelle que les Jeux Olympiques ont été inventés pour faire arrêter la guerre, pour qu'il y ait une trêve. Donc c'est du soft power, on peut faire des choses très très bien, on peut faire des choses pas très 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 bien. De tout temps, les Jeux Olympiques ont été aussi des espaces de confrontation politique. Donc voilà, après nous on fait le choix d'aller sur un territoire où les droits humains sont peu ou pas respectés. La démarche sur Cuba aussi, hein, je le disais tout à l'heure. Voilà, donc la Palestine, on l'assume. Actuellement, on travaille. Par exemple, on a une ville d'amitié qui est en Italie, à Ascio. Et on se dit, bon, on travaille beaucoup sur le patrimoine et il faudrait passer à autre chose avec les jeunes. Et ben, on fait quoi? Le sport. Et donc, on travaille à des échanges sportifs, tout simple. Et là, on se dit, on va essayer de travailler sur les questions européennes en même temps, les échanges, etc. Donc voilà, c'est le sport, c'est de la politique, évidemment. Et c'est pour ça qu'on fait des politiques publiques.
Bon, ben, on arrive à la fin de cette session. Je vais vous donner à tour de rôle la parole pour que vous disiez une phrase ou un message de conclusion. On a dit beaucoup de choses, j'en ferai pas la synthèse, simplement des mots-clés. On a parlé de diplomatie par le sport, de sport comme droit et non uniquement comme moyen. On a parlé aussi des questions de parité, de représentation des femmes dans le sport. Bon voilà, j'en ferai pas la synthèse, mais je vous propose, si vous le voulez, un dernier message ou une dernière phrase que vous souhaitez dire avant que l'on se sépare.
Très, très rapidement, vous remercier, vous dire qu'on est à, de mémoire, 310 jours de la cérémonie d'ouverture. C'est à la fois très court parce qu'en termes d'organisation, ça arrive vite. Et en même temps, ça laisse le temps d'initier quelque chose. Je suis assez convaincu qu'une collectivité qui aujourd'hui dirait « je ne vais pas rater le train des Jeux et je veux quand même réussir à faire quelque chose », elle peut initier un projet et, si les choses vont bien, le poursuivre et bénéficier de cette accélération au lendemain. Donc, il faut faire usage de cette dernière année.
Moi, j'invite toutes les collectivités qui ont le sport au cœur de leur coopération décentralisée à signer la lettre que va bientôt faire CUF. Je vais passer un message à Monsieur le Président de Cité Unifrance pour qu'on soit actif dans ce que nous appelle Monsieur, à savoir à faire de l'héritage 2024 sur la coopération décentralisée et le sport.
Ah, moi, je dirais, bon, les JO, c'est vraiment une opportunité, mais il faut l'utiliser dans le bon sens, c'est tout à l'heure. Et l'utiliser dans le bon sens, c'est ne faire aucune coopération s'il n'y a pas quelque chose de durable à l'arrière. Et si possible, le faire acter par son conseil municipal. Toute action, toute coopération doit être actée par son conseil municipal, ce qui donne de la durabilité éventuelle à ce projet.
Alors, merci pour ce riche débat. Je dirais que mon objectif reste le même, c'est qu'on puisse partager notre expérience des JOP avec le monde, mais qu'aussi on puisse être fiers de ces JOP et qu'on soit regardé, que cette fois-ci c'est nous qui regardions avec les yeux qui brillent ces JOP et que le monde aussi nous regarde comme ça.
Mais d'abord, merci CUF pour avoir organisé cet atelier. Moi, je crois beaucoup dans le mot partenariat pour travailler à cet héritage. Je suis convaincu que tout héritage dépendra aussi de ce que chacun voudra, pourra essayer d'en faire au quotidien. Je pense qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un héritage qui soit décrété dans lequel on puisse se canaliser. Il faut qu'on construise ensemble. Il y a des outils, il y a des solutions. On a beaucoup parlé de jeunesse, de questions de participation des jeunes. Il y a des dispositifs publics, il y a des opérateurs qui peuvent vous accompagner. Je pense bien sûr au volontariat. C'est des dispositifs sur lesquels il y a des financements, il y a des possibilités. Donc on a aussi, je pense, beaucoup d'instruments très concrets qui nous permettent aussi d'agir, si tant est qu'on arrive à agir de manière collective et partenariale, en n'oubliant pas aussi que les enjeux d'héritage, ils vont se poser pour la France, mais ce sera aussi très important de le réenvisager dans le cadre des enjeux internationaux que vous portez au quotidien.